À tout à l'heure.
Elle était donc créée à l'initiative d'un ingénieur informaticien, Kin Nguyen, qui travaillait dans le cadre de cette UMR Géographie-Cité. Et le projet de création de cette revue avait émergé au cours de l'un des colloques de géographie européenne théorique et quantitative, colloque qui se renouvelle tous les 2 ans depuis 1978. Et qui souhaitait disposer d'une revue qui publierait les actes de ces congrès. En fait, ça ne s'est pas fait, mais la revue est devenue une publication organisée comme une revue scientifique avec des comités de lecture internationaux, un peer review en double aveugle, et d'emblée, elle a été publiée en français avec des titres et des résumés
Je vous arrête,
en anglais.
Denise.
Oui,
Excuse-moi.
pardon.
Je vous arrête parce que le PowerPoint ne passe pas très bien. Enfin, la présentation ne passe pas très bien compte
C'est
tenu
pas
de.
très joli, oui, en
Voilà.
effet.
Je vais essayer de prendre le moins de temps possible pour recharger une nouvelle version. Charger une nouvelle version. Hop. Pour voir si c'est mieux. Voilà, et je vous redonne la main. Voilà. Est-ce que cette version-là est plus conforme?
Alors, ça a l'air en effet plus espacé, certaines lignes se superposaient. Voilà. Donc, dans cette brève présentation de la revue, j'indiquais que d'emblée, elle avait été quand même, ce qui est une relative originalité dans ce champ de la géographie, bilingue. Et surtout complètement en ligne, donc sans aucune version papier, et en accès libre, sans aucun coût, ni pour les lecteurs, ni pour les auteurs. Et nous maintenons ce modèle autant que possible. Alors évidemment, cette revue qui était organisée avec les moyens du laboratoire a dû évoluer dans sa présentation. Vous avez là quelques rappels de sa physionomie qui s'est modifiée au cours du temps, grâce notamment à la veille technologique opérée par Christine Cosmopoulos, qui est arrivée au secrétariat de rédaction en 97. Nous avons souscrit à la proposition de revue.org d'entrer dans cette collection pour la plateforme éditoriale en y apportant notre modèle bilingue qui n'existait pas auparavant parmi les revues déjà hébergées. Et nous utilisons une plateforme de gestion éditoriale qui s'appelle Manuscrit. Nous avons aussi souscrit dès 2012 au modèle freemium qui est un abonnement avec un coût variable beaucoup plus léger que ceux des grandes revues des éditeurs privés et qui propose également des abonnements à coût réduit pour les pays pauvres. Et je dois dire que nous étions contraints de souscrire à ce modèle parce que nous avions découvert entre-temps que nous ne pouvions pas, en tant que revue de géographie, être proposés aux étudiants ou recensés par les bibliothèques universitaires parce qu'il fallait qu'elles aient une facture d'abonnement pour pouvoir signaler ces revues. Donc maintenant, c'est fait et nous sommes en bonne place parmi les revues de notre propre institut de géographie. Alors, nous avons également eu la possibilité et le souhait d'inclure parmi nos rubriques, qui sont très généralistes, une rubrique plus particulièrement dédiée à la publication du modèle géographique, parce que nous voulions assurer que certains de ces modèles au moins puissent être retravaillés, réutilisés. Et donc, nous avons, à l'initiative de Arnaud Banos, créé cette rubrique GeoPenMod. Et puis récemment, en 2017, donc, nous avons créé une rubrique de Data Papers pour renseigner les données et les métadonnées pour des sous-ensembles d'informations géographiques qui peuvent être des données d'enquête particulières, mais également des données éventuellement accessibles publiquement, mais retravaillées d'une manière particulière pour les besoins d'une recherche scientifique en géographie. Et donc, ce data paper donne les informations nécessaires à la réutilisation des données qui doivent être intégrées dans un entrepôt accessible pour les lecteurs. Donc, notre souci était celui du partage, de la transparence, des données scientifiques et de la reproductibilité des analyses qui sont proposées de ces données. Il s'agissait aussi de préserver des données travaillées par certains auteurs en permettant à d'autres de les réutiliser. Donc, nous avons quelques consignes particulières qui sont indiquées dans un template sur les notes aux auteurs destinées aux auteurs d'articles par la revue. Dans la mesure où ces données sont géographiques, nous nous sommes inspirés de différents modèles de templates que nous avions trouvés pour des revues qui proposaient des data papers, mais en y ajoutant des spécifications liées au format particulier des données géographiques en termes de géolocalisation, de composantes spatiales, de géométrie, des informations qui sont signalées dans ces data papers, et vous avez ici l'URL où ces informations sont consultables. Cette nouvelle rubrique donc permet de citer les travaux de construction des données qui sont résumés par les auteurs dans ces articles. Nous vérifions que ces données sont réutilisables et la construction de la base de données est contrôlée à la suite d'une évaluation par les pairs. Et bien entendu, ces ensembles de données peuvent être explorés à partir des moteurs de recherche sémantiques et géographiques. Dans cette nouvelle rubrique, il y a pour le moment pas full d'articles, en tout 7 articles. Nous avons demandé à ce qu'ils soient toujours publiés en anglais, évidemment, dans un souci de large communication et visibilité à l'étranger. Ce nombre est croissant puisque un seul article était publié en 2017. En 2020, nous en avons eu 3 publiés successivement. Vous avez là la liste des 3 articles publiés qui concernent la mise au point d'une délimitation harmonisée d'un certain concept de ville très élargi puisqu'il est censé partir des villes qui ont des grands aéroports internationaux et inclure suffisamment des communes voisines pour qu'on puisse y détecter la présence des entreprises internationales qui assurent leur communication via ces aéroports. Donc 2 articles s'inspirent de ce schéma et indiquent comment ils construisent leurs données à partir de différentes sources qui sont rassemblées et retravaillées. Et puis un autre article qui parle d'une archive de médias pour donc des études d'historique des journaux. Et ces 7 articles ont déjà réuni 27 citations qui sont évidemment des citations de chercheurs réutilisant ces travaux ou se proposant de les réutiliser et qui ne sont pas du cercle des auteurs. Je passe la parole à Clémentine pour la suite du détail de notre procédure d'évaluation de ces articles.
Merci, j'espère que vous entendez. Et si c'est possible d'avoir la main aussi sur les diapos, s'il vous plaît.
Ça doit être bon, Clémentine.
D'accord, je vois. D'accord, oui. Ok. Merci. Pour la suite de cette présentation, ma contribution va être de déplier un peu le processus d'évaluation et de publication de ces data papers dans CyberGéo, notamment en faisant un point sur les principes qui nous ont guidés pour mener cette évaluation et le processus tel qu'il se passe dans la réalité. Donc, on est encore au début, finalement, même si on a commencé en 2007, l'ensemble des consignes, par exemple, sont adaptées au fur et à mesure de l'expérience qu'on a avec les auteurs et avec certaines difficultés rencontrées. Donc, je finirai la présentation par un certain nombre de difficultés, d'obstacles et aussi d'expériences positives que l'on tire après à peu près 3 ans d'expérience sur cette publication d'un nouveau format d'article dans CyberGéo. Donc, comme le présentait Denise à l'instant, cette nouvelle rubrique, donc c'est une rubrique qui est aussi évaluée par les pairs, mais en revanche, la particularité de ce type d'articles, de même que pour les articles consacrés au modèle géographique que l'on a initié quelques années plus tôt, ça demandait un nouveau comité de lecture puisqu'on veut que ces articles soient à la fois évalués en fonction de leur thème et en fonction de la particularité de leur contenu, c'est-à-dire la description des données et surtout la description de la construction du jeu de données. Donc par rapport aux présentations précédentes, moi je mettrais plus l'accent dans notre revue et pour la spécificité de ces data papers en géographie, non pas sur une simple description du jeu de données, mais vraiment sur l'argumentation de la construction de ce jeu de données et de comment il peut être réutilisable par des auteurs dans le futur. Donc ça demande aussi, par rapport aux articles que l'on publiait avant, une exigence par rapport aux données. Donc contrairement à d'autres revues généralistes qui publient des articles avec données accessibles, ici vraiment, la publication des données précède vraiment la soumission des articles. Donc, on demande aux auteurs de déposer leurs données avant même de soumettre, dans un dépôt pérenne et ouvert, de préférence institutionnelle. Donc, on leur donne des suggestions de dépôt, mais c'est au choix des auteurs. Et donc, les données qui sont décrites dans ces data papers sont des données géographiques. Donc, c'est un critère pour nous d'évaluation de ces données. Des données géographiques inédites avec leurs métadonnées. Et donc, je vais détailler les ajouts spécifiques qu'on a dû faire dans nos instructions aux auteurs, dans la revue, pour cette rubrique en particulier, et je détaillerai la chaîne de traitement du dépôt jusqu'à la publication. Donc, en termes de principes généraux, Denise l'a mentionné à l'instant, on suggère fortement aux auteurs de publier leurs data papers en anglais. On le fait avec une suggestion qui est que les informations, les consignes spécifiques sont elles-mêmes en anglais. Donc on essaie vraiment de pousser les auteurs dans ce sens. Malgré le fait que la revue soit bilingue, voire trilingue, l'objectif ici, c'est vraiment que la description des données soit accessible au plus grand nombre pour vraiment faciliter leur réutilisation. Donc, on cherche vraiment à maximiser cette visibilité. Et ça nous permet aussi de faire appel à des relecteurs internationaux pour évaluer ces articles. Donc, la première étape, c'est vraiment donc le dépôt des données que l'on laisse à l'initiative des auteurs, mais on leur recommande donc d'utiliser un dépôt extérieur, un dépôt de préférence institutionnelle qui attribue un DOI et qui soit pérenne. Donc c'est vraiment important parce que évidemment on ne voudrait pas que dans 3 ans l'article puisse être lu mais que le lien vers les données soit coupé parce qu'il est hébergé sur un site personnel par exemple. La question des licences d'utilisation, c'est quelque chose que l'on essaie de rappeler aux auteurs, que l'on mentionne dans les consignes spécifiques, mais que l'on laisse à la responsabilité des auteurs. Donc, si par exemple leur base de données est originale, mais s'appuie sur des éléments obtenus par d'autres sources, la revue n'est pas responsable de la compatibilité de ces licences, mais elle pousse les auteurs à vérifier ces éléments eux-mêmes. Donc, principalement quand on pressent que certaines données ont été publiées a priori sous licence propriétaire, on pose la question à nouveau aux auteurs pour s'assurer qu'eux ont vraiment les droits sur les données qu'ils publient. En termes d'objectifs, donc c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, peut-être une petite différence avec ce qui se passe dans d'autres disciplines, peut-être plus structurées, avec des standards plus importants, comme on l'a vu pour l'écologie et la biodiversité. C'est vrai que notre vision du Data Papers n'est pas d'un article qui décrirait simplement le jeu de données, et typiquement, on n'accepterait pas en l'état des articles qui soient juste une traduction des métadonnées sous forme littéraire. Vraiment, ce qu'on demande aux auteurs, et on a quelquefois des incompréhensions avec certains auteurs, on demande vraiment que le document Data Papers documente les données, qu'il explique vraiment et justifie toutes les procédures qui ont amené des données originales, des enregistrements ou des interviews etc. à la base de données finale. Donc on demande vraiment aux auteurs d'expliquer, pour que ce soit reproductible, vraiment comment ils ont utilisé leurs sources, comment ils les ont transformées, comment ils les ont modifiées, agrégées, etc. pour produire la base de données qui est présentée dans le Data Papers. Et donc vraiment, on a un guide avec ce Data Papers de comment est-ce qu'on pourrait refaire cette base de données, ce qui permet aux lecteurs souhaitant utiliser la base de données, de gagner du temps puisqu'ils n'ont pas à faire ce travail, mais aussi de savoir exactement quelles données ils utilisent puisque toute la chaîne de traitement et les choix opérés dans cette chaîne de traitement ont été expliqués dans l'article. Donc évidemment, on se base aussi sur le respect de ces principes FAIR que l'on mentionne dans les consignes aux auteurs, donc d'avoir vraiment des données qui soient accessibles. Donc ce n'est pas une étape que l'on vérifie à la fin avant de publier, c'est vraiment quelque chose qui vient dès le départ, donc de vérifier que les données soient accessibles dans ce dépôt, qu'elles soient réutilisables, donc avec les bonnes licences, qu'elles soient interopérables, donc on ait vraiment des formats de données qui soient réutilisables et interopérables. Et ensuite, l'aspect findable, donc trouvable, entre guillemets, c'est à la fois la question du DOI, mais aussi on essaie de favoriser le fait que ces données soient trouvables avec, par exemple, l'utilisation d'un index, donc au sein de la revue, avec un index géographique et thématique. On peut aussi donner une sorte de moteur de recherche vers ces données dans le contexte d'une revue géographique. Donc, en termes de respect des principes FAIR et de leurs détails dans les consignes que l'on donne en termes de soumission de ces papiers, on veut évidemment que toutes les sources originales des données soient décrites, soient mentionnées. Donc, en termes de l'organisation initiale productrice de certaines données, quand on est en SHS, on peut récupérer, par exemple, certaines données de recensement, par exemple, donc qui sont déjà produites initialement par une organisation, d'avoir les contraintes temporelles et la temporalité des données, leur format, les variables disponibles, le lien vers le dépôt. Donc ça, c'est assez standard. Mais surtout, ce sur quoi on insiste beaucoup, c'est l'explicitation des processus qui ont abouti à la base de données finale. Donc, pas simplement dire bon, ça vient d'un corpus de texte et voici le résultat final, mais vraiment l'opération de nettoyage des données a consisté à, par exemple, estimer certaines données manquantes avec telle formule, interpoler certaines informations, utiliser un modèle, une agrégation, donc par exemple pour les articles sur les bases de données concernant des villes, souvent c'est une agrégation de municipalités entre elles, donc on veut vraiment savoir pendant l'évaluation quel a été le critère, les principes, les seuils utilisés pour agréger justement ces données initiales en données finales. Et donc, on cherche vraiment à ce que cette description soit exhaustive et détaillée pour permettre la reproductibilité des analyses. On demande aussi, puisqu'on publie uniquement des bases de données géographiques, donc aux auteurs de décrire les caractéristiques spatiales et scalaires de leurs données. Donc, on demande par exemple de détailler la géométrie des informations diffusées. Est-ce que ce sont des points, des lignes, des polygones, à quelle échelle? Est-ce qu'elles sont compatibles avec un certain nombre de logiciels d'informations géographiques, par exemple? Et on demande aussi aux auteurs de pourvoir une description de leur processus de validation. Donc, j'y reviendrai. La revue n'est pas forcément le bon endroit pour valider les données. Donc, la branche manquante du graphique que l'on voyait au début, nous considérons que ce n'est pas la revue de valider ces données. Par contre, c'est à la revue et aux évaluateurs d'évaluer le processus de validation. Donc, on demande aux auteurs de vraiment montrer les étapes qu'ils ont suivies pour s'assurer de la validité de leurs données, donc en utilisant des analyses de sensibilité ou de robustesse, en comparant avec d'autres données pour voir s'ils récupèrent des informations plausibles ou réalistes. Et donc, c'est ce processus que l'on va évaluer. Et donc, on a besoin qu'il soit présent dans l'article. Et enfin, par rapport à la question qui avait été posée précédemment, de est-ce que toutes les données méritent d'avoir un data papers, le dernier point de cette slide montre que notre position, c'est de dire, pour nous, les données qui méritent d'avoir un data paper, c'est celles qui méritent d'être réutilisées. Donc, quelque chose qui serait vraiment une recherche très niche sur un sujet probablement non réutilisable, qui soit vraiment très, 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 très précis. Pour nous, vu la quantité d'informations que l'on demande aux auteurs d'écrire dans leur manuscrit, on pense que ce n'est pas forcément nécessaire de faire tout ce travail si c'est vraiment pour des données qui doivent juste être gardées quelque part, accessibles, mais pas forcément décrites en détail. Donc pour nous, on veut vraiment voilà, que les auteurs aussi passent par cette étape de réfléchir aux usages possibles des données qu'ils décrivent et à quelles instructions spécifiques ils donnent aux futurs utilisateurs, par exemple sur leurs données en particulier. Donc, on demande aux auteurs d'avoir un dépôt pérenne avant soumission, mais comme le reste des articles de la revue, et j'y reviendrai, c'est une difficulté que l'on rencontre actuellement, on veut aussi une évaluation anonyme, donc double blind, anonyme pour les auteurs et pour les évaluateurs. Et donc, ça pose un tout petit problème de donner accès à des données sans donner accès à l'identité des auteurs. Donc, on a prévu une clause dans nos instructions aux auteurs qui est que les auteurs nous envoient une version anonymisée de leurs données que l'on puisse transférer aux évaluateurs avec un lien anonyme pour les étapes intermédiaires et que l'on s'engage ensuite, évidemment, à détruire si l'article n'est pas publié, même s'il est publié d'ailleurs. Et une fois que l'article est accepté, de mettre ensuite le lien vers le DOI public avec l'identité des auteurs dans le data papers. Donc, en termes de consignes spécifiques, on demande aussi, par rapport aux articles généraux, une annexe assez générique qui correspond aux métadonnées des données publiées, donc avec des informations assez classiques, au maximum possible de demander aux auteurs de suivre les normes ISO, donc en termes de langue, de temporalité ici par exemple, et donc on leur demande des informations géographiques sur l'échelle, le type de représentation, etc. Et donc, j'ai une slide blanche. Donc, comme je disais, on a dû recréer un comité spécifique pour la lecture de ces data papers. Donc, on essaye, avec deux ou trois évaluateurs, d'en avoir au moins un évaluateur sur le thème et au moins un évaluateur sur les données. Et donc, ce comité est composé de géographes, de statisticiens et d'ingénieurs. Mais évidemment, pour chaque thème, on peut aussi évaluer la pertinence des données et du data papers en fonction, bien sûr, de la connaissance du thème. Et donc, on se réserve le droit de faire appel à des relecteurs extérieurs par thème et en fonction du caractère international des données publiées. Et donc, le processus d'évaluation passe par une première pré-évaluation par les éditrices où on regarde vraiment si le format et si le détail des informations demandées correspond à nos attentes. Souvent, on a des rejets à cette étape-là, donc pas sur la pertinence des données elles-mêmes, mais vraiment sur une insuffisance de description des protocoles de construction des données. à cette étape-là. Et donc, on demande juste aux auteurs d'ajouter des informations sur ce que je disais, la construction des données, leur évaluation et leur réutilisation. Ensuite, on propose ces articles en évaluation au comité spécifique. Et on peut demander voilà, des relecteurs extérieurs, notamment pour l'adéquation avec le thème. Et ensuite, une synthèse s'opère, comme pour les autres articles de la revue, avec des itérations, si des corrections sont corrigées. Et donc, chaque itération, c'est un chiffre qui n'est pas précis, mais dure environ 2 mois entre cette première étape d'évaluation et un retour aux auteurs. Par rapport aux difficultés rencontrées, notre retour d'expérience est que globalement, on a une expérience assez positive, on a une attente des auteurs, donc on a vraiment reçu dès le début des propositions d'articles. Et on en reçoit toujours d'auteurs en France et d'ailleurs qui sont vraiment prêts à publier, à promouvoir leurs données en accès libre par ce data paper CyberGéo. En revanche, on a 3 types de difficultés qui sont en cours de résolution et vraiment qui nous ont amenés à revoir nos instructions, revoir notre politique, donc liée au dédoublement des articles, à ce côté anonyme du dépôt des données et à l'objet de l'évaluation. Donc, en termes de dédoublement des articles, on a une difficulté qui concerne le fait que la revue autorise une double soumission, une soumission d'un data papers et soumission d'un article détaillant les analyses issues du jeu de données. Donc pour nous, c'était relativement clair que le data papers va vraiment décrire le protocole de construction des données, et c'est vraiment son objet, et l'article plus classique va s'appuyer sur ces données pour faire des analyses. C'est vraiment quelque chose qui nous pose problème en ce moment, puisqu'on a plutôt une vision pour certains auteurs d'un article qui va détailler la construction des données dans l'article classique, puisque ça fait partie de l'apport scientifique que les auteurs pensent amener pour un sujet. Et en revanche, le data papers, ils vont simplement nous soumettre une liste de métadonnées. Donc, comme certaines exceptions du data papers dans d'autres disciplines ou d'autres revues, en revanche, pour nous, voilà, il n'y a pas assez de contenu, il n'y a pas assez d'informations pour que ce data paper puisse se lire indépendamment. Et donc, on a beaucoup d'échanges avec les auteurs qui soumettent 2 articles en même temps pour essayer vraiment de leur demander de séparer les 2 et d'avoir 2 articles qui se tiennent indépendamment. Donc, c'est un peu la garante, entre guillemets, de la publication du data paper, c'est d'avoir une citation en plus, mais vraiment, en termes de pour la revue, nous, une citation en plus, mais du coup, veut vraiment dire un article entier qui a son propre objectif, donc de décrire ces données, de décrire comment on en est arrivé à ces données. Et donc, c'est une difficulté qui est peut-être juste un manque de clarification sur le statut de ces articles, mais sur lequel on travaille en ce moment. Le deuxième point, c'est ce que j'abordais tout à l'heure, en termes de problèmes entre avoir accès aux données et garder l'anonymat. Donc, c'est quelque chose sur lequel on agit en ce moment avec l'aide du laboratoire Géographicité. Donc, éventuellement, d'avoir notre propre serveur qui puisse stocker des jeux de données anonymes pendant la phase d'évaluation. Et enfin, l'idée de validation des articles versus validation des données, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui est le fait que la revue ne se sent pas responsable de la validation des données elles-mêmes, mais est par contre responsable, avec ses relecteurs, de la validation, de la description argumentée de ces données pour asseoir leur crédibilité envers les lecteurs. Donc, de même que pour les licences, c'est quelque chose qui revient en dernier ressort aux auteurs, mais que on essaie de les aider à promouvoir cette validation en justement décrivant leur processus de manière la plus transparente possible. Et donc, j'arrive à la fin de notre présentation, CyberGéo, la publication de data papers dans la revue CyberGéo participe vraiment de la continuité de cette revue qui vraiment travaille à l'ouverture et à la recherche ouverte, donc avec une ouverture des articles, une ouverture avec l'absence d'APC par exemple, une ouverture des codes, des modèles et maintenant des données, donc qui s'inscrit dans l'idée de science ouverte, mais qui l'a même précédée puisque ça, c'est vraiment une vague de fond. On essaye de se positionner par rapport aux auteurs qui voudraient publier leurs données en disant que on a ici quelque chose qui voudrait rassembler des jeux de données géographiques et donc ça prend tout son sens par rapport à un data journal plus général. L'idée, c'est d'avoir vraiment une identité de ces données et de ces data papers autour de la donnée géographique. Donc ça a nécessité voilà, un nouveau comité, des consignes spécifiques, de nouvelles difficultés, mais qui nous font avancer aussi. Et donc, un jour, voilà, l'idée d'avoir un dépôt assez important où on pourrait voilà, faire des requêtes par index géographique pour avoir ces données accessibles et explorables de manière plus générale. Donc voilà, juste pour finir, j'ai mis les liens ici, donc de la rubrique Data Papers, du blog qui accompagne la revue CyberGéo et du compte Twitter qui promeut les publications et les actualités de la revue. Je vous remercie.
Merci Clémentine et Denise. Donc il y a pas mal de questions qui ont été posées sur le chat, là, que je vais relayer. Donc il y a trois questions en une, qui traite à peu près du rapport dans la rédaction de data paper, du rapport entre les chercheurs sur le plan scientifique et les ingénieurs techniciens. Donc la question, ça serait, est-ce que les IT peuvent rédiger et publier un data paper indépendamment des chercheurs et du contexte scientifique? Je pose les trois à la suite. Le rang de la revue de data paper est un critère important pour un chercheur. Qu'en est-il des revues pour les data papers? Cette question de rang n'est-il pas un frein à la publication de data paper? Comment faire pour motiver les chercheurs à publier dans des revues qui ne sont pas forcément cotées? Voilà. Et troisième question qui rejoint, c'est quelle est la proportion d'IT d'un ingénieur technicien dans le comité de lecture? Donc on voit bien qu'il y a une question qui a trait à la part respective des actions entre la méthodologie et le contexte scientifique dans les data papers.
Denis, je ne sais pas quelle question vous préférez.
Allez-y, répondez, Clémentine.
Est-ce que les IT peuvent rédiger et publier un data paper indépendamment des chercheurs et du contexte scientifique, c'est-à-dire juste sur l'aspect méthodologique, par exemple?
Bon, je veux bien répondre sur cette question. Dans les équipes de sciences sociales, en fait, les IT sont toujours étroitement associés à la recherche parce que il n'y a pas qu'une dimension technique dans le travail sur les données, il y a toujours une implication forte sur la signification et sur la, comme le disait Clémentine, la construction de ces données. Donc nous avons régulièrement des ingénieurs ou des techniciens qui signent, qui co-signent les articles dans la revue scientifique et rien n'interdit non plus à un ingénieur et nous le savons bien puisque Christine Cosmopoulos qui est ingénieure de recherche a déjà publié seule des papiers dans des revues scientifiques. Donc c'est assez fréquent que les ingénieurs publient soit des analyses, soit des articles techniques, soit associés à la publication de papiers ou de data papers.
Voilà. La question, merci. La question venait du fait que certains de nos collègues ont du mal à motiver les chercheurs pour rédiger des data papers. Donc la question, c'est est-ce que le rang de la revue est un critère important pour un chercheur? Qu'en est-il des revues data papers? La question de rang n'est-il pas un frein à la publication du data paper? Et comment faire pour motiver les chercheurs à publier dans des revues qui ne sont pas forcément cotées?
Alors, le rang des revues en sciences humaines et sociales, c'est quelque chose qui a beaucoup moins de signification que dans les revues de sciences biologiques ou de sciences de la nature en général, dans la mesure où il est assez difficile et souvent peu pertinent d'établir des hiérarchies entre les revues dont les thèmes sont éventuellement plus ou moins spécialisés, associés à une grande diversité culturelle ou linguistique locale, Et en tout cas, tous les, bien sûr, ça existe. Les grands éditeurs nous affligent de coefficients d'impact, voire de rang, mais cela ne représente pas globalement suffisamment bien la qualité des revues. Et si vous regardez ce que pratiquent les comités nationaux d'évaluation, que ce soit au CNRS ou au CNU, il y a une défiance de toutes les sections de sciences sociales vis-à-vis d'une bibliométrie qui serait purement quantitative. D'ailleurs, dans Cybergéo, nous avons publié plusieurs articles à ce sujet. Donc, je pense que ce qui compte beaucoup plus pour les auteurs, c'est la procédure d'évaluation, la qualité des avis qu'ils reçoivent quand ils soumettent des articles. Et c'est une préoccupation qui les anime pour, et puis également aussi la visibilité qui sera conférée à leur papier du fait d'une publication. La chance de Cybergéo, c'est que, étant une revue électronique depuis le début, avec une qualité d'évaluation qui ne s'est pas démentie depuis plus de 20 ans, eh bien, nous avons pour cette revue 1 million de téléchargements d'articles par an, donc qui montre une audience qui, je crois, est au moins aussi importante pour les auteurs que tel ou tel ranking proposé par des bibliomètres internationaux.
D'accord, merci.
Clémentine.
Et j'imagine que l'avantage peut-être de publier dans une rubrique data papers d'une revue identifiée comme thématique, à l'avantage peut-être dans les évaluations disciplinaires d'être reconnu finalement par les évaluateurs pour son statut thématique plus que pour le data papers qui est peut-être pas encore extrêmement reconnu et valorisé de manière générale. Donc pour nos auteurs, c'est aussi une publication Cybergéo dans une rubrique particulière. Donc je pense que ça... C'est une publication dans une revue de géographie. Je pense que ça peut faire la différence pour ceux qui choisissent de soumettre ici. Pour la question sur la part d'hésité, donc j'ai regardé brièvement dans le comité permanent donc des 10 personnes, j'ai au moins 20%. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas un critère qui a guidé notre choix. On a cherché des gens qui soient experts de ces données. Effectivement, certains ont été choisis parmi les chercheurs, parmi les IT, sans penser à leur statut nécessairement. Pour l'évaluation des articles, l'appel au relecteur extérieur, encore une fois, on ne s'interdit pas du tout de faire appel ni à des IT, ni à des personnes issues d'autres organismes, donc hors recherche éventuellement. Donc on a par exemple quelqu'un dans le comité qui vient de l'ancien CEGET, enfin, du Commissariat Général au Développement Durable, ou de l'INSEE. Donc on a vraiment des profils choisis pour leur expertise dans les données. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Oui, je pense. Vas-y, Stéphane.
Oui, Maurice, excuse-moi, il y a beaucoup de discussions qui seraient possibles de faire sur cette intervention. Enfin, l'intervention se couvre, en tout cas, le champ de l'intervention. On a pris un petit peu de retard tout à l'heure. Il est déjà 11h46. Je voudrais éventuellement que, Maurice, si c'est possible, tu capitalises les questions, s'il y en avait encore, pour potentiellement les évoquer en fin de webinaire. J'aimerais bien que aussi bien Victor que Joachim aient le temps aussi de faire leur exposé et qu'on puisse débattre éventuellement sur l'ensemble